avant de retrouver comme un jeudi sur deux votre rendez-vous avec la médiatrice de Radio France après 13h20. Rendez-vous avec l'actualité des idées, manipuler le vivant, pourquoi faire, dans les secrets de la vie qui paraît au CNRS édition. La biologiste Nicole Ledouarin revient sur le sel de son activité, la recherche, et son moteur, la quête d'émerveillement, le désir de connaissance, autour d'une grande question: comment, à partir d'une cellule unique, un organisme se développe-t-il? On va lui poser cette question aussi pour comprendre les grandes évolutions de la recherche et voir où nous en sommes aujourd'hui. C'est donc une voix du CNRS, médaille d'or, qui est avec nous aujourd'hui pour ses travaux en biologie du développement. Bonjour à vous, Nicole Ledouarin.
Bonjour.
Les secrets de la vie, publié au CNRS édition dans cette nouvelle collection de vive voix qui donne la parole aux chercheurs de la maison. Voilà, pour leur faire raconter aussi les aventures qu'ils ont connues, comment ils sont entrés dans cette vocation, profession qu'est la recherche, ce qu'ils ont trouvé et ce qui les tient encore en haleine aujourd'hui. Le vivant a-t-il encore d'ailleurs beaucoup de secrets pour vous, Nicole Ledouarin?
Beaucoup, beaucoup. C'est très compliqué, le vivant. Et les progrès qu'on fait sont spectaculaires à certains égards, mais par rapport à tout ce qui reste à découvrir, eh bien, il y a encore beaucoup à faire.
Vous dites beaucoup, vous dites pas trop. Pas encore trop de secrets pour vous.
Ah, trop, c'est difficile de dire trop. C'est par rapport à quoi trop?
Par rapport à vos attentes, peut-être, la question.
J'ai toujours pensé, j'ai toujours compris que c'était très complexe et qu'il y avait beaucoup à apprendre et beaucoup à chercher, mais que c'était quelque chose qui en valait la peine.
Vous aurez reconnu Nicole Ledouarin.
Beethoven, oui.
Beethoven, voilà, Beethoven et son concerto pour violon en ré majeur. La biologie, c'est comme la musique, c'est une partition infinie.
Oui, mais c'est quelque chose qui préexiste à nous, à l'homme, tandis que la musique, c'est une création de l'homme.
C'est-à-dire le champ des possibles est moins important?
En musique?
Ou en biologie?
Ah, vous voulez dire important en quantitativement, en problème? Écoutez, je ne sais pas si ça se compare, mais en tout cas, on peut dire que dans le domaine de la biologie, des sciences de la vie, il y a encore beaucoup à comprendre, beaucoup à faire. Oui.
Comment vous êtes arrivée, vous, en biologie? Quel a été le déclic?
J'ai commencé à trouver la biologie formidablement intéressante quand j'étais dans la dernière année des études secondaires. On appelait ça sciences expérimentales à l'époque. Il se trouve que j'étais au lycée de Lorient, en Bretagne, mon pays, et que j'avais une femme qui était professeure là et qui avait une façon de nous expliquer comment fonctionnait. À l'époque, c'était la physiologie humaine qu'on étudiait. Les maladies, le système circulatoire, respiratoire, etc. Comment tout ça fonctionne. Et elle nous expliquait ça d'une façon telle que ça m'a passionnée. Et que après, alors que j'aurais eu plusieurs autres possibilités de choix, j'ai pensé que c'était dans cette discipline-là que j'aurais le plus de plaisir à apprendre.
Et ça a été le cas?
Ah ben, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas fait les autres.
Mais vous dites beaucoup de plaisir vraiment... dans le sens. Vous dites beaucoup de plaisir aujourd'hui, mais vous racontez aussi dans cet ouvrage, Les secrets de la vie, à quel point la recherche, et notamment en biologie, a été pour vous un don entier de votre personne.
Ces jours et nuits. Je crois que quand on veut faire quelque chose qui est compliqué au départ, quand même, la recherche, c'est chercher quelque chose qui n'est pas connu. Il faut faire preuve de tout un tas de capacité hein, d'imagination, de détermination. Il faut être vraiment prêt à sacrifier beaucoup de choses. Je ne regrette pas, si c'est ça que vous me demandez. Je ne regrette pas, j'ai pu trouver un grand plaisir.
Vous racontez aussi dans ce petit ouvrage les figures tutélaires et notamment celle d'Étienne Wolff qui va vous initier à la biologie du développement. Lui, il avait réalisé des travaux sur l'influence des hormones femelles sur le développement des caractères sexuels et c'est lui qui va vous, pour la première fois, vous prendre sous son aile et vous intégrer à son service.
Oui, oui, moi je lui dois beaucoup à cet homme-là. C'est un homme qui avait d'ailleurs eu une carrière qui ressemble un petit peu à celle que j'ai eue, en ce sens qu'il avait commencé par être professeur, et puis professeur de philosophie. Il a même préparé l'agrégation de philosophie, et c'est en préparant l'agrégation de philosophie qu'il a dû faire un stage de 6 mois, c'était dans le règlement, dans un laboratoire de recherche. Et c'est quand il a passé dans ce laboratoire de recherche, à la faculté de médecine de Strasbourg, qu'il a eu une illumination, il a décidé que ça allait être les sciences de la vie. Et il a poursuivi là-dedans. Et je lui dois beaucoup parce que on a partagé tout de suite notre enthousiasme pour la biologie. Et puis moi, j'ai reconnu en lui un maître tout à fait comme j'en rêvais. Et puis je crois qu'il a apprécié aussi le contact avec moi comme élève.
Alors qu'est-ce qu'il vous donne à faire au début? Qu'est-ce qu'il vous confie comme étude?
Ah, il m'a confié, parce qu'il travaillait sur le développement, n'est-ce pas? Il s'agit de savoir comment se développe à partir d'un œuf, un organisme. Et alors, il travaillait sur l'embryon d'oiseau. Pourquoi l'embryon d'oiseau? Parce que c'est quelque chose qui est très facile à manipuler, étant donné qu'il se développe à la surface du jaune d'œuf. Alors, il suffit d'ouvrir l'œuf et puis on le voit pousser, on le voit se développer. Et on peut aussi interférer sur ce développement pour essayer de comprendre comment les différentes phases du développement s'organisent. Et il était à la tête déjà d'un laboratoire où il y avait pas mal de gens qui travaillaient sur différents sujets. Et il m'a dit, écoutez, il y a un aspect du développement qui est celui du tube digestif et des glandes digestives qui lui sont associées. Tout ça à partir d'une couche particulière de l'embryon précoce qui est l'endoderme, celle qui va être à l'intérieur de l'embryon. Alors que l'ectoderme, c'est ce qui va donner la peau et le système nerveux. L'endoderme, c'est ce qui donne tout l'appareil digestif avec les glandes et tout ça. Il m'a dit, écoutez, personne ne travaille là-dessus en ce moment. Depuis longtemps, donc il y a à faire, vous n'avez qu'à y aller. Alors c'était assez, c'était pas très précis, mais j'y suis allée sous son aile protectrice, naturellement, et ses encouragements, et puis j'ai passé ma thèse comme ça.
Et alors pour comprendre à qui on a affaire avec vous, Nicole Ledouarin, je vous cite dans ce petit ouvrage, il faut dire que pour les chercheurs dont le matériel est l'embryon d'oiseau, le spectacle offert par la transformation en 2 ou 3 jours de l'embryon précoce qui se présente comme une couche de cellules étalées sur le jaune de l'œuf en un organisme hautement structuré, pourvu d'une tête, d'un tronc et d'un cœur qui bat, le tout autour d'un halo de vaisseaux sanguins, est une merveille à laquelle on ne peut pas rester indifférent.
Tout à fait vrai, vous savez, c'est un grand privilège d'avoir pu contempler ce développement de l'embryon, ce développement d'un organisme à partir de quelque chose qui n'est rien. Parce que au départ, sur ce jaune d'œuf, il y a une toute petite région qui est un peu plus claire, qu'on appelle la cicatricule, et qui est la cellule œuf. Alors, en 2 ou 3 jours, c'est devenu ce que j'ai décrit là. Et ça vaut vraiment la peine du détour.
Ça vaut la peine du détour. Vous nous parliez de cette figure tutélaire, hein, d'Étienne Wolff, philosophe à ses débuts. Hein,
oui.
Et peut-être jusqu'au bout, manipuler le vivant. Étienne Wolff, votre mentor, était interrogé en 1970 sur cette tentation.
Il y a une très grande tentation. C'est d'appliquer les lois de la vie que nous connaissons et que nous appliquons aux animaux en améliorant certaines races, en faisant de la génétique normative. Il y a certainement une tendance à vouloir l'appliquer à l'homme. Je dois dire que des doctrines et des expériences passées qui ont été faites dans certains états totalitaires nous retiennent et nous réfrènent de vouloir continuer les expériences de cette sorte et si l'on veut améliorer l'organisme humain, eh bien qu'on l'améliore d'abord à l'échelle individuelle, avant de songer à améliorer ce qu'on appelle la race humaine. Mais on peut faire beaucoup pour la santé de l'homme, on peut faire beaucoup pour sa longévité, on peut faire beaucoup pour son alimentation, pour l'accroissement de ses possibilités intellectuelles, de son bonheur. Mais ne tentons rien en ce qui concerne l'amélioration de l'espèce humaine avant d'en avoir des raisons suffisantes et d'en avoir les moyens.
Voilà, le totalitarisme a montré les dérives possibles de ce type de manipulation, disait Étienne Wolff. Quelles seraient à vos yeux aujourd'hui, Nicole Ledouarin, les raisons suffisantes, pour reprendre ces mots?
D'abord, je voudrais dire que c'était un humaniste. On perçoit sa culture de base de philosophe. Il avait beaucoup réfléchi. Et on avait le plaisir avec lui, pas seulement de discuter science, mais de discuter aussi la place de la science et l'avenir de la science dans la société humaine. Et votre question, c'était...
Vous dites qu'il était à la fois humaniste et qu'il réfléchissait à tous les enjeux éthiques aujourd'hui, des progrès de la science et notamment des avancées de la recherche en biologie du développement. Il dit, lui, qu'il faut penser aux raisons suffisantes. Quelles seraient pour vous les raisons suffisantes aujourd'hui? Est-ce qu'on a, on en a aujourd'hui les moyens de cette manipulation du vivant? Qu'est-ce qui la justifierait?
Je crois qu'il y a une chose à laquelle il ne faut surtout pas toucher. C'est le génome, c'est-à-dire ce qui caractérise l'humain, et ça, il faut absolument pas y toucher. Alors que on essaye qu'on fasse des interventions sur l'humain, on en fait tout le temps en médecine, et c'est quelque chose qui est à l'honneur des chercheurs et des médecins. Je crois qu'il ne faut absolument pas, et ça serait très facile à faire maintenant, depuis qu'on connaît bien la structure de l'ADN, qu'on sait le manipuler, on pourrait beaucoup tenter d'améliorer la race humaine, et je crois que ce serait une grosse erreur. Je suis tout à fait de son avis, je pense que les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis.
Oui, vous dites que dans les 5 dernières décennies, parmi les grandes avancées, s'il ne devait en rester qu'une, peut-être ce serait cette connaissance de l'ADN que nous avons aujourd'hui, l'ADN comme support matériel de l'hérédité.
Oui, ça c'est la grande découverte, ça c'est quelque chose qui a complètement changé la place de la science vis-à-vis de la biologie en général. À cause de cette unité extraordinaire, d'ailleurs, l'ADN est la même structure, que ce soit chez un microbe, ou que ce soit chez l'homme, ou que ce soit chez l'éléphant. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'ailleurs à laquelle on peut réfléchir, parce que ça veut dire que c'est une aventure qui a commencé avec des organismes simples, et qui s'est extraordinairement complexifié au cours des siècles.
Vous dites toucher aux
centaines d'années.
Toucher au génome humain, aujourd'hui on pourrait le faire, on saurait le faire. Oui. Qui aurait intérêt à le faire? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Est-ce qu'il pourrait y avoir des bénéfices médicaux, sanitaires?
Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils ont une bonne raison d'améliorer des choses, d'intervenir. Non, il y a plein de possibilités de le faire, mais il y a une grande résistance quand même à cette démarche.
J'aimerais qu'on retourne avec vous, Nicole Ledouarin, en 1986. Antenne 2 s'intéressait à ce moment-là à vous et à vos travaux qualifiés d'uniques au monde. Vous aviez réalisé à ce moment-là les premiers croisements caille-poulet, les premières chimères.
Mais au-delà de leur immense intérêt pour la recherche fondamentale, ces chimères visent aussi à expliquer l'origine de certaines malformations congénitales, à obtenir la tolérance de greffes entre espèces différentes, et même à mettre au point un modèle expérimental d'étude pour la sclérose en plaques. Mais après toutes ces découvertes fascinantes, Nicole Ledouarin va aujourd'hui encore un peu plus loin. Elle entame un nouveau style de chimère. Avec son équipe, elle commence depuis quelques mois à faire des greffes de cerveau.
Il s'agit de réaliser des greffes extrêmement précises de régions du cerveau de caille chez le poulet, de laisser les chimères éclore et de voir dans quelle mesure le comportement du poulet hôte est affecté par la présence dans son cerveau de tissu nerveux qui appartient à une autre espèce. En somme, il s'agit d'une nouvelle méthode pour étudier la génétique du comportement et pour réétudier le vieux problème de l'inné et de l'acquis.
Donc, avec ces coqs chimériques, nous dirons nous aussi cocorico pour la recherche française.
Voilà, il crie bien les coqs chimériques, Nicole Ledouarin. On entend quand même la voix très enthousiaste des journalistes à ce moment-là, en 1986, quand ils présentent vos travaux. Et on voit qu'ils leur accordent aussi à votre recherche un crédit immense et une confiance totale. Aujourd'hui, est-ce que de telles découvertes, vous pensez, seraient accueillies dans le débat public avec beaucoup plus de précautions? Est-ce qu'elles provoqueraient beaucoup plus d'inquiétudes?
C'est possible, oui, en effet. Il y a une espèce d'inhibition qui s'est répandue sur l'innovation dans beaucoup de domaines, et puis surtout dans les domaines de la biologie. C'est regrettable, il faut évidemment que les choses soient très très contrôlées et très vérifiées, mais quand même c'est un peu dommage de voir que on devient beaucoup plus inquiet, beaucoup plus... Ça devient de plus difficile.
Des scientifiques qui ont été reçus, auditionnés à l'Assemblée au début du mois, ont souhaité défendre aussi activement leurs recherches et leurs travaux sur des cellules souches issues de l'embryon. C'est ce que rapporte notamment un article de La Croix. Ils disent dans cette tribune « Nous ne sommes pas des scientifiques fous ». Ça ramène à ce que vous appelez les inhibitions aujourd'hui, la peur qu'on peut avoir face à ce type de recherche. Il faut aujourd'hui pour les chercheurs se justifier.
Il a toujours fallu se justifier quand même. Il a toujours fallu se justifier, mais maintenant ça devient excessif, oui. Il y a une sorte de panique générale qui s'exerce sur, puis une espèce de doute vis-à-vis des scientifiques, de doute vis-à-vis de l'avancée de la science.
Mais il vient d'où ce doute pour vous? Il est injustifié?
Pour moi, il est injustifié, oui, mais parce qu'il faut faire confiance aux scientifiques. Il n'y a aucune raison de penser que... Enfin, il y en a peut-être qui ont des mauvaises intentions, mais d'une manière générale, les gens sont raisonnables. Enfin, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mon environnement,
toute
mon existence.
Ouais. Dans ce petit ouvrage, Nicole Ledouarin, vous dites aussi qu'il y a beaucoup aujourd'hui de positions irrationnelles dans le débat public France, depuis la question des OGM.
Mais l'histoire des vaccins, par exemple, c'est quelque chose de confondant. Comment se fait-il que les gens ne se rendent pas compte que sans les vaccins, il y aurait des morts en quantité, d'énormes épidémies épouvantables? Je ne comprends pas bien ça. Vraiment, c'est difficile.
En même temps, le doute, la remise en cause, c'est aussi un des moteurs de la recherche.
Oui, mais il faut qu'il soit un peu rationnel quand même. Il ne faut pas qu'il soit dirigé par des errements complets, là. Ça n'a pas de sens.
Cet été, Nicole Ledouarin, un Japonais, a été autorisé à créer un embryon humain chimérique, voilà, qui soulève aussi des craintes en France notamment, où c'est interdit. Écoutez.
D'abord, le visage impassible, très japonais. Puis ce sourire épanoui. Ce chercheur est un homme heureux.
Cela a pris 10 ans, mais nous pouvons à présent commencer l'expérience.
C'est-à-dire développer des organes humains dans le corps d'animaux. Un premier pas sur un très long chemin qui pourrait mener à fabriquer des reins, des foies, des cœurs d'hommes à l'intérieur d'un cochon, par exemple. Jusqu'à présent, les États-Unis et le Japon obligeaient les chercheurs à détruire ces embryons d'organes au bout de 2 semaines. Tokyo est passé outre en raison de la très grande rigueur de ce scientifique. Cette nouvelle pourrait intéresser les presque 25 000 demandeurs de greffe en France en 2018. Mais les chercheurs seront vigilants. Ils ne veulent pas retrouver des cellules de pancréas humain dans le cerveau d'un porc. En clair, ils ne veulent pas créer de monstres.
Mélanger...
cette histoire.
Vous ne l'aviez pas entendu? Les recherches qui ont été faites par ces équipes et ce chercheur japonais?
Si. Mais écoutez, je pense que d'essayer de... C'est une recherche qui à laquelle les scientifiques pensent depuis un certain temps, à savoir d'obtenir des organes humains et qui... arriverait à maturité sur un animal. domestiques, comme le porc.
Ou comme le rat ou la souris.
Ah non, non, c'est pas possible parce que c'est une question de taille. Justement, le porc est choisi parce que il a un développement qui est compatible avec l'homme et puis aussi il y a le problème de la taille des organes. Mmh. La souris, ce serait un tout petit cœur. Non, alors ça c'est quelque chose qui résoudrait beaucoup de problèmes, vous savez, parce que on sauve énormément de vies avec les greffes d'organes, mais le problème c'est que les organes ne sont pas en quantité suffisante pour les besoins. Mmh. Et ce serait un grand progrès de pouvoir obtenir des organes in vitro. Alors on essaye in vitro, mais pour les avoir justement de la taille qui convient, jusqu'ici c'est tout à fait impossible. Par conséquent, un greffe in vivo sur un animal, pourquoi pas?
Et donc, on les conserverait aussi
On les ferait d'abord pousser, là. Il faudrait faire des greffes au départ sur l'embryon. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais ça serait quelque chose qui est envisagé assez sérieusement.
Est-ce que la crainte, ce n'est pas l'étape d'après, peut-être? Ce serait que l'homme remplace le porc et que l'homme redevienne lui-même un réservoir d'organes pour d'autres humains.
Ça, c'est quelque chose qui relève de l'éthique.
Ah, ça non. Ça, c'est non, alors, pour vous, par exemple.
Ah, absolument.
Pourquoi?
Parce que c'est instrumentaliser le corps humain. Ça, c'est pas possible.
C'est pas possible. Mais ça, moi, c'est, donc c'est moi, sûr c'est que ça, moi, on n'ira jamais dans cette direction-là.
J'espère bien, oui.
Voilà, c'est un espoir, mais vous n'êtes pas sûr. On ne peut pas en être certain.
Ce qui va se passer dans 100 ans.
Non, effectivement. La création d'embryons humains chimériques, elle est interdite encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays.
Chimérique.
Oui, cette création d'embryons humains.
C'est-à-dire que les embryons humains, on les obtient par la fécondation in vitro. Il suffit de mettre des ovules et des spermatozoïdes en contact et on obtient le développement d'embryons. Et ces embryons, on peut les laisser, les garder in vitro jusqu'à un certain stade, qui est le stade qui correspond à celui où ils doivent s'implanter dans la paroi utérine pour se développer. C'est quelque chose qui se fait déjà.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui pour vous qu'il faut interdire, Nicole Ledouarin, d'autres qu'il faut autoriser?
Nous venons d'en parler déjà de plusieurs cas. Et je crois qu'il faut surtout interdire toutes les atteintes au génome. Génome humain, pourquoi? Parce que ça ne correspondrait pas à un seul individu, mais potentiellement à la descendance de cet individu. Et par conséquent, ça pourrait avoir des répercussions importantes sur la race humaine.
Vous avez suivi les débats qui ont eu lieu, notamment sur la question de la recherche sur les cellules souches embryonnaires dans le cadre de la préparation de la loi de bioéthique.
Ah oui, les cellules souches embryonnaires, c'est quelque chose de formidable. C'est une des plus grandes découvertes de la biologie après la biologie moléculaire. Mmh. Le fait qu'il existe des cellules qui ont la capacité de se maintenir in vitro avec des potentialités qui sont très très grandes, des potentialités qui sont aussi grandes que celles de l'embryon très précoce, c'est-à-dire qu'une seule cellule est capable de se développer dans des conditions qu'il faut définir, bien entendu, mais de donner naissance à des cellules de tous les types cellulaires qui existent dans l'organisme. C'est des cellules d'une grand intérêt à tout point de vue, du point de vue théorique et puis surtout encore du point de vue pratique.
Le pilote, Michael Schumacher, a été hospitalisé, oui, paraît-il, à Paris pour y recevoir un traitement secret qui n'en est plus un, pour nos voisins de la télévision belge. Écoutez.
Une arrivée discrète, tout aussi contrôlée que celle d'un chef d'État. Il y a moins de 24 heures, Michael Schumacher est arrivé dans l'hôpital parisien Georges Pompidou. Objectif, bénéficier de perfusions de cellules souches diffusées dans tout son organisme. Ce professeur connaît bien la technique.
Ils injectent des cellules souches. Ces cellules souches vont aller un petit peu partout dans le corps. Et je suppose qu'ils espèrent avoir une revascularisation, c'est-à-dire des nouveaux vaisseaux qui vont apparaître au niveau du cerveau. Et à ce moment-là, avoir des cellules qui vont se remettre à se multiplier, à peut-être assurer une meilleure connexion et avoir un réveil plus important du patient.
Question, quelles sont les chances que ce traitement fonctionne?
Je serais plutôt pessimiste. Je pense que c'est un traitement d'avenir. Dans les études qui sont faites, on essaie de donner ce traitement-là le plus tôt possible après le traumatisme. Ici, on est à 5 ans, voire 6 ans à la fin de l'année, si je me souviens bien. Donc c'est un petit peu tard. Mais je pense qu'il faut tout essayer, de toute façon.
Je pense qu'il faut tout essayer. Vous saviez ça?
Non, je n'aurais pas dit ça. Il ne faut pas tout essayer, mais il peut essayer des... Il faut faire quelques essais pour savoir quel est le résultat de l'opération. Mais dans le cas présent, c'est un cas unique. Je n'ai jamais entendu dire que ça s'est fait sur des humains.
Ou que ça pourrait
être... Ça a été divulgué, si ça a été fait déjà. Mais on va voir.
Bon, alors si c'est le cas, il sera un peu le cobaye de cette perfusion de cellules souches. Est-ce que vous y voyez quand même une technique d'avenir?
C'est vraiment un grand point d'interrogation. Hein.
Pourquoi?
Parce que ce monsieur, il a eu un choc cérébral hein, qui a détruit des zones du cerveau qui sont indispensables à toutes sortes de fonctions. Et pour arriver à reconstituer du tissu encéphalique avec tout ce que ça contient de spécialisation, de complexité, j'ai des doutes quand même que ça puisse faire quelque chose. Mais enfin, peut-être qu'il y aura quelques améliorations dans son état de santé général. Hein.
Merci de vous être prêté au jeu de réagir à cette information, si tant est qu'elle soit vraie. Merci aussi d'être venu nous parler de cette passion, vocation qu'a été la recherche en biologie du développement pour vous. Je terminerai avec vos mots. Le domaine des cellules souches m'a beaucoup passionné parce qu'il est en liaison tout à fait directe avec le développement. C'est comme si les êtres organisés que nous sommes possédaient, après être devenus adultes, une source de jouvence qui se maintient jusqu'à un âge avancé. Merci beaucoup Nicole Ledouarin.
Merci. Notre accueil.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et comme un jeudi sur deux, nous avons rendez-vous avec la voix de la médiatrice de Radio France à 13h23. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia.
Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Florent Latrive et de Baptiste Muckensturm. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Olivia.
Et vous allez aborder ensemble la nouvelle série de podcasts que France Culture va mettre au jour et qui concernera notamment des questions liées à la manipulation de l'information.
Oui, et en préambule, je voudrais rappeler que la manipulation, c'est le défi majeur dans le champ de l'information. Internet et les réseaux sociaux offrent aux théories conspirationnistes une vitalité nouvelle et une audience mondiale. Nous ne glissons plus vers l'ère de la post-vérité, nous y sommes, sous l'emprise des algorithmes, des rumeurs et des oligarques. Et dans ce contexte, j'aimerais vous demander, Florent Latrive, si vous estimez que les nouveaux podcasts de France Culture sur les mécanismes du complotiste répondent à une mission de service public.
Oui, ils répondent à une mission de service public parce qu'à chaque fois qu'on produit des nouveaux podcasts originaux, donc diffusés sur Internet, on cherche absolument à répondre aux fondamentaux éditoriaux de la chaîne, donc dans le domaine des savoirs, des idées, de la création. C'est évidemment le cas avec ce podcast qui s'attaque à la fois à un sujet qui est très discuté, très débattu, très important sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Donc en faisant cet objet éditorial sur le 11 septembre et les mécaniques du complot, on s'adresse à un public qui n'est pas forcément celui qui a l'habitude de la chaîne. Et c'est en ça que c'est très important pour nous.
Et alors, lancer ces podcasts qui sont très adaptés aux écritures numériques, est-ce que c'est une manière aussi de conquérir de nouveaux publics, un jeune public?
Alors, sur les écritures, il est évident qu'à chaque fois qu'on se pose la question de produire un podcast original, on se pose la question de la spécificité. Donc, les écritures, et c'est le cas de la mécanique du complot, c'est une écriture sérielle. On raconte la façon dont les théories du complot se propagent sur le 11 septembre en 5 épisodes, avec des cliffhangers, comme on dit dans les séries, à la fin de chaque épisode, une écriture spécifique. Donc, ce sont des écritures qui sont des écritures auxquelles les jeunes publics, notamment, sont plus habitués. Et c'est des écritures qui nous permettent, justement, d'aller toucher ces publics-là.
Baptiste Muckensturm. Stéphane, l'un de vos auditeurs nous écrit au sujet de votre série sur le 11 septembre. J'adore France Culture, mais malheureusement, vous êtes vous aussi victime de cette manipulation. Vous êtes censé alimenter, documenter le doute. Le doute permet de se questionner, de progresser. Mais vous, que faites-vous? Vous actez qu'il y a certains sujets sur lesquels le doute n'est pas permis. Celui du 11 septembre en est un. Ceci n'est pas conforme à votre raison d'être. Pourquoi? Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on a reçu plusieurs mails d'auditeurs sur cette question du doute.
Oui, alors je doute que Stéphane ait raison. La question du doute, justement, on se la pose depuis longtemps à France Culture. Déjà l'année dernière, avec les idées claires, on a remis en cause pas mal d'idées reçues, parce qu'on sait que les idées fausses, les fake news circulent très très vite. Et on a conçu un programme avec Nicolas Martin, sur Internet et aussi en podcast, qui détricotait les idées reçues. Avec les mécaniques complotistes, on va encore plus loin, puisqu'on décrypte les rouages de ce complot mondial, qui pourtant a été... De cet attentat qui a été le plus documenté, les historiens, les journalistes, les enquêteurs ont établi les faits, on les connaît, 2977 personnes ont été tuées par des pirates de l'air qui ont détourné 4 avions de ligne, ils étaient de 11 nationalités différentes, bref, on sait tout, le nom des commanditaires, des victimes, des responsables, et pourtant justement, c'est ça qui est intéressant dans Mécanique complotiste, c'est que certains doutent encore. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce podcast, c'est que ce doute a traversé l'Atlantique et que la France a été un terreau, un endroit où le doute a prospéré et s'est développé, et c'est justement ça qui est raconté dans ce podcast en 5 épisodes.
L'élaboration d'un tel podcast nécessite combien de temps de travail en amont de recherche ?
C'est une bonne question. C'est le premier. Ça a pris un peu plus de temps que les autres. Ça a pris quelques semaines. Et puis, on a travaillé avec Roman Bornstein, qui connaît bien la question du complotisme. Donc, il n'y a pas de vérité exacte, justement, sur ce sujet.
Florent Latrive, quelles sont vos autres programmations de podcasts que pourront bientôt écouter les internautes et auditeurs?
Alors, très bientôt, dès le 23 septembre, une nouvelle série de fiction qui s'appelle Projet Orlov, qui est une fiction d'espionnage qui se passe dans les années 80. Et nous aurons après un podcast Rien sur une histoire du vide avec Étienne Klein, qui est par ailleurs producteur sur la chaîne, ainsi que d'autres programmes encore à venir, à raison d'au moins un par mois dans les mois à venir.
Et du côté des fictions?
Du côté des fictions, donc la prochaine c'est Projet Orlov, oui. Comme nous avons publié Dream Station il n'y a pas très longtemps.
Alors je pensais aussi à la saison de Varenne.
Alors parce que ça c'est Varenne, va être la nouvelle saison de Varenne, donc qui est une fiction politique, va être diffusée à l'antenne dans la case du feuilleton dans quelques mois, donc c'est la 6e saison qui va être mise à l'antenne, et donc on va à cette occasion évidemment reproposer toute l'écoute de Varenne depuis le début.
Dernière question récurrente, elle ne concerne pas que France Culture, mais en l'occurrence, je vous la pose. Pourquoi France Culture s'est laissé imposer de la publicité en introduction de ses podcasts?
Bon, imposer, en fait, c'est une politique Radio France. La politique sur les podcasts, comme elle l'est à d'autres endroits de la maison, est mesurée. On choisit les annonceurs et ça n'est pas sur tous les programmes. L'argent récolté nous permet de continuer à distribuer gratuitement les podcasts.
Merci à tous les deux.
Oui, merci beaucoup Florent Latrive, Baptiste Mückensturm. Comme j'ai mal fait les présentations, pardonnez-moi, je précise que vous êtes tous les deux membres de la direction de France Culture. Vous êtes un peu nos monsieur vidéo, nos monsieur numérique et nos monsieur podcast ici à France Culture. Merci beaucoup d'être venu répondre aux questions d'Emmanuel Davier, à qui l'on peut écrire, médiatrice de Radio France sur le site de Radio France, Emmanuel Davier. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Maya Leskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc à la réalisation aujourd'hui. C'était Éric Lancien avec Adèle Caglar et à la vidéo Clément Daté. Très bel après-midi sur France Culture.